Donc, c'est la discussion collective là, sur la censure des invertébrés. Donc, je vais faire l'introduction là, sur ce sujet-là. Je voudrais dire que je ne suis pas spécialiste, donc il y a des gens qui en sont certes moi là, dans la salle. Je vais essayer quand même de faire une synthèse un petit peu là, de ce qu'on sait là, par rapport aux invertébrés et de leur sentience ou non sentience. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que les invertébrés? Donc, c'est des animaux, selon une classification qui a été faite au 19e siècle. Ce qui définit un animal, c'est le type de cellule qu'il a. Il n'y a pas de cellule végétale, donc il y a une paroi. Et c'est aussi qu'ils sont hétérotrophes, c'est-à-dire qu'ils prennent des nutriments dans leur environnement qui ont un certain nombre de composés organiques. Si on regarde la définition du Larousse sur les invertébrés, ça dit que se dit d'un animal dépourvu de colonne vertébrale. Ça veut dire que c'est vraiment tout ce qui n'est pas vertébré. c'est un tas gigantesque de tout. Au final, il y a 95% des animaux qui sont des invertébrés, ce qui représente 1,3 million d'espèces. Et parmi ces invertébrés, il y en a 85% qui sont des arthropodes. Je vais dire un peu plus tard ce que sont les arthropodes, mais c'est les insectes, les araignées et les crustacés. Donc, les 85% sont partie de ce groupe-là. Donc, comme je disais, c'est un groupe gigantesque. Les invertébrés peuvent vivre en milieu marin, en eau douce, peuvent être terrestres, peuvent être carnivores, herbivores, omnivores, ils peuvent voler, nager, ramper, marcher et même ne peuvent pas être capables de bouger. Donc, c'est vraiment une catégorie qui a été définie en opposition aux vertébrés. Donc si on regarde un petit peu la classification, en fait, c'est une classification simplifiée. Donc nous, on est ici, là, on est parmi les vertébrés qui vous avez mis dessus, en haut, ici, il y a les végétaux. Et finalement, entre ici et ici, tout ça, c'est des invertébrés.
Voilà, grandir un petit peu.
Donc ici, sont les vertébrés. Donc ici, tout ce qu'on a en dessous sont des vertébrés. Ici, c'est les végétaux. Donc en fait, entre ici et ici, c'est les invertébrés. Et ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, les vertébrés sont plus proches des étoiles de mer, des étoiles de mer oursins, qu'on va être proche des espaces dans le groupe des mollusques. Donc, selon la classification, en fait, c'est... les mollusques sont classés.
Proche dans l'histoire, c'est-à-dire que les séparations sont effectuées de moins en
moins. Temps, ouais. C'est-à-dire que les structures, normalement, sont plus proches. Donc, là, je vais faire quelque chose d'un peu rébarbatif, si ça m'a l'air. Je vais essayer de passer en revue un petit peu à tout ce que sont les invertébrés, essayer de décrire la présence ou non d'un système nerveux et puis un petit peu sa structure, de voir s'ils ont des organes sensitifs, c'est-à-dire s'ils sont capables vers l'extérieur là, de capter des informations, et de voir comment on a identifié les comportements de cris, d'évitement, des cris là, qui pourraient indiquer de la sentience. Et puis, les réactions physiologiques au stress, cette partie-là est moins développée. Déjà, il y a moins d'informations, moins de temps sur cette partie-là. Donc, on va commencer par les plus simples, qui sont les cellulaires. Donc, en fait, c'est tout ce qui est les éponges et...
les méduses.
Non, pas les méduses. Les méduses font partie des cellulaires.
Ah oui.
Donc principalement, là, les animaux là, que j'ai illustrés en haut, c'est une couche de cellules avec des pores qui sont sur la paroi de l'animal. Donc quand c'est dans ces pores, le corps va rentrer, elle va être guidée au travers par le traversé et en fait les cellules vont se nourrir directement à partir de l'eau qui va être chargée qui passe au travers. Il n'y a aucun système nerveux qui a été identifié, mais c'est un animal parce que la cellule est un animal. Mais quand on ça, dans le vraiment proche du végétal, ça ne bouge pas, c'est...
En fait, il pense que c'est une cellule animale, une cellule...
Là, en fait, ici, une cellule végétale, ici, une cellule animale. En fait, il y a les cellules végétales, principalement, ça a des grandes vacuoles dans lesquelles il y a et autour, ça a une paroi qui crée la structure, en fait. La cellule animale, elle est plus...
Il me semble qu'au niveau de cette description-là, les cellules des champignons sont dans la catégorie cellules animales. Sont même groupe que les cellules animales.
C'est possible de reproduction des cellules, de faire de la
ça c'est pareil, mais sauf qu'il y a la création de la paroi en plus là, dans le cas de la cellule végétale.
En cellule, alors que les animaux, c'est souple, c'est des liquides. La parole.
Donc les quinidaires qui sont entre autres les méduses. En fait, les méduses, c'est une des formes dans la vie des quinidaires. Il y a une forme sous forme de polype, l'autre qui va être sous forme de petite méduse. Donc, il y a le système nerveux chez les quinidaires, c'est un système qui est diffusif partout dans le corps. Quand l'animal est sous forme polype, il n'y a pas d'organe sensoriel. Par contre, quand il est sous forme méduse, dans certains cas, les cellules photoréceptrices, c'est-à-dire qu'elles sont capables de capter la lumière. Il y a aussi des organes qui s'appellent les statocystes qui permettent à la méduse de savoir où est le centre de gravité. Donc, qui peut-être permet d'avoir des interactions. Par contre, donc il n'y a aucun centre nerveux localisé. C'est des cellules nerveuses dispersées partout dans l'organisme.
Attends,
vous
dites
que donc les équidodermes, c'est ceux dont les invertébrés qui sont le plus proche de nous. Donc on parle d'oursins et d'étoiles de mer principalement. Donc il y a 7000 espèces différentes d'équidodermes. Leur système nerveux, donc là ici là, c'est la description du système nerveux des étoiles de mer. Donc il y a autour de la bouche un ensemble nerveux qui des cordes en fait. C'est exactement la même chose dans le cadre des soins, la bouche va y avoir besoin. Ici, on a la bouche, et puis on va avoir les soins qui partent le long du corps, en fait, de tout ça. Donc, ce système nerveux contrôle la diffusion, en fait, dans l'organisme de l'eau, en fait, comment l'eau va se déplacer à l'intérieur de l'organisme avec des systèmes qui peuvent être des petits poils ou on l'a aussi observé chez certaines étoiles de mer des cellules qui sont capables de réagir au toucher, aux composés chimiques, au courant d'eau et même dans certains cas à la lumière. Donc il y a aussi dans le cas de certaines étoiles de mer, quand si elles se retrouvent balayées et mises à l'envers, d'avoir un mouvement qui est volontaire de se remettre dans le bon sens. Mais ça reste un système très très primitif, en fait, avec principalement la bouche qui a des cellules nerveuses et puis cinq axes de cellules nerveuses. Les platelminthes. Donc, c'est des animaux qui peuvent être libres, mais la majorité d'entre eux, donc 80% d'entre eux, eux sont des parasites. Donc leur structure cellulaire est un peu différente selon s'ils sont libres ou s'ils sont parasites. Et quand ils sont parasites, il n'y a quasiment pas de système nerveux. Le système nerveux qui est représenté ici, en fait, là qui est pour le cas d'un animal libre, et donc il montre donc, un axe au niveau de la bouche parasite et puis deux formes de système nerveux. Donc dans le cas du système parasitaire, on va avoir juste la partie supérieure et peu de choses à son niveau. Dans l'ensemble du corps de l'animal. Donc le système nerveux, il comporte une paire de ganglions cérébraux, donc en haut. Et deux cordons longitudinaux avec une série de neuf nerfs, une série de nerfs transversaux. Donc, si on regarde les organes sensoriels, donc ils ont des statocytes aussi, qui sont capables de voir la gravité, et ils ont des ocelles qui se permettent de détecter la lumière. Dans la région céphalique, on a aussi observer la présence de chémorécepteurs, c'est-à-dire qu'ils sont capables de détecter différents produits chimiques et de se comporter différemment selon le produit chimique présent. Voilà, je pense que j'ai dit un peu trop plus sur cette. Là, on voit une photo de la gigocelle à tout ça. J'ai mis des gestes touches parce que, même si c'est pas très connu ni particulièrement court, parce que c'est un risque vraiment tout petit. Donc, c'est ça, j'ai mis ces animaux-là, même s'ils ne sont pas très courants, ils sont principalement dans les mares, parce qu'ils sont vraiment très petits, ils font entre 0,5 et 4 mm de long. Mais finalement, ils sont plus complexes que des animaux qui seraient plus gros. Et on a tendance, quand on regarde la sortie des animaux, à faire comme si c'est gros, à en donner plus d'importance que si c'est petit, qu'on ne les voit pas. Donc c'est ça. Donc c'est dans un système nerveux qui est quand même plutôt se développer, avec donc, des ganglions cérébraux qui sont ici, et qui en fait. Contrôle un certain nombre de soies qu'on voit bien sur les photos et qui permettent à cet animal de se déplacer. Donc en plus, on voit qu'il y a des organes quand même assez différenciés, des glandes stomacales. C'est un animal qui est quand même assez complexe. Les annélides. Donc il y a 17 000 espèces différentes d'annélides. C'est principalement une cavité avec un céleau. Donc le milieu en fait est l'ensemble du corps de l'animal. Le système nerveux est formé d'un cerveau, d'une chaîne nerveuse ventrale, comme on voit ici. Ici, la partie cérébrale qui est la chaîne nerveuse. Et il a quand même un système assez riche périphérique. Depuis le début, là, de tout ce que je vous ai montré, tout ce qu'il y avait un système circulatoire qui n'était pas court, le cratère et les analyses de la majorité ont un système qui est court.
Le système est court.
Oui. Il est flou, ouais. Flou, ça veut dire qu'il a des genres de veines. Tout ce qui est à l'intérieur, comme nous, notre sang, par exemple. C'est pas le relié à l'extérieur.
Il y a les extrémités et les ouvertures.
Donc, celui qui a été le plus étudié, c'est la sangsue, au niveau là, du système nerveux. Donc, ce qui a été observé, c'est que la majorité, il y a un ganglion supra-œsophagien qui se trouve ici et qui est proche de la ventouse antérieure et qui nerve beaucoup la ventouse antérieure. qui certainement a un lien avec la capacité là, de ventouse de la sangsue. Ce qui a été remarqué, c'est que ces animaux ont des photorécepteurs, des chimiorécepteurs, mais par contre, il y a des organes tactiles qui, eux, ne sont pas reliés aux ganglions à aucun ganglion, en fait. C'est-à-dire que la manière dont ça fonctionne, c'est que la cellule tactile est directement reliée au muscle qui va se contracter avec le...
Alors, chez les ganglions en particulier, en général, plutôt, ou chez les sangsues en particulier
Là, moi, je l'ai vu sur les sangsues, mais je ne sais pas si c'est plus général sur l'ensemble de la cellule. Les nématodes, c'est juste pour montrer des animaux qui ont l'air en fait assez similaires quand on regarde les nématodes par rapport à l'amylide, et qui finalement a un système nerveux qui est quand même assez différent. Dans son cas, donc, il y a aussi un collier œsophagien, mais il y a 6 branches nerveuses pour les organes qui sont au niveau de la bouche, et 2 nerfs en fait. Il y en a un ventral et un dorsal pour. Qui partent du collier œsophagien. Donc, eux aussi ont des soies tactiles et un appareil oculaire, donc ils sont capables de détecter la lumière. En fait, la majorité des animaux ne détectent pas les objets, mais ils sont capables de voir s'il y a une zone avec lumière et une zone sans lumière. Est-ce que c'est la photo à moi? Je ne sais plus exactement où c'est un parasite. Là. En fait, c'est un morceau de peau avec le parasite qui est là. Mais parce que il y a aussi pas mal de ces animaux qui vivent de manière parasitaire. Les brachiopodes. Donc, ces animaux sont plus complexes. Ils ont des organes différenciés, ils ont un foie, ils ont des embryons de rein, ils ont un cœur primitif, ils ont un réseau sanguin qui est contractile, qui peut se contracter, puis qui est lié au système nerveux. Par contre, ce système nerveux est diffusif et presque juste, il y a un centre nerveux qui est ici au niveau du corps. Donc c'est dans le corps qui se d'avancer, qui permet en fait de contrôler l'entrée d'eau dans le brachiopode. Donc, et toute la partie du centre nerveux, tout part vers là-bas. Le reste, c'est quelques cellules nerveuses qui sont dispersées à travers mais pas reliées au centre nerveux. Donc c'est un animal qui ne bouge pas, qui est vraiment. Bon, majoritairement c'est l'antenne. Donc là maintenant on va rentrer dans différents types de mollusques. Donc
Je pense qu'elles ont pas sens. sais pas, il y a, je sais pas, peut-être pas, mais
je pense
ça avait fait une juste petite polémique, parce qu'il y en a qui ont été
véganes. Et puis il y a une sorte de différence pour certaines seraient véganes et d'autres pas.
Quoi?
Il y aurait des huîtres de sortes différentes, dont certaines sont véganes.
Non, mais du coup, je demandais techniquement, comme il y a la photo, qu'est-ce qui différencie les huîtres de d'autres trucs pour comprendre leur argument, quoi.
de sensibilité vers l'extérieur. Ils ont des yeux qui aussi détectent juste la lumière et pas les objets. Ils ont un certain nombre d'organes tactiles, pareil au niveau là, du bas du manteau, et qui sont qui ont été démontrés comme étant assez spécialisés en fait. Ces organes, ils ont aussi deux tentacules. Ils sont elles aussi tactiles.
Donc un escargot, quand il me regarde, il ne me regarde pas. Hein.
Non, il ne te regarde pas. Il voit que la lumière qui cherche. Aussi, tout autour de la bouche et des tentacules, ils ont donc des fibres récepteurs, donc ils sont capables de des produits chimiques, ils sont capables de faire des injections sur les produits. Et il y a un certain nombre aussi de mécanos récepteurs sur la peau, c'est-à-dire qui sont capables là, ils sentent quand il y a une déformation de leur peau. Donc, ça crée une réaction. À cause de ça, dans certains documents, ils ont des cellules nociceptives. Donc ça veut dire qu'ils sont capables de ressentir la douleur. Donc, du fait qu'en fait, l'information de déformation serait liée à une intégration qui leur permettrait de ressentir la douleur. Et je l'ai lu dans certains endroits et dans d'autres.
Par exemple, le dessin que tu montres là à droite dans ce cas, ça ne comprend pas tous les nerfs vers les...
Non,
oh.
C'est ça, là, en fait, tous les ganglions, eux, après, récupèrent l'ensemble de la formation.
D'accord, mais là, le système nerveux, c'est grosso modo, c'est le système nerveux central. Enfin, oui. C'est pas les nerfs ouais. Qui vont vers les six secteurs.
Non, c'est ça, là. C'est juste, comme nous, quand on montre le système nerveux, on montre juste le crâne et la zone latérale. Et on pense qu'ils sont capables de voir les objets. ils ont aussi une énorme sensibilité au niveau du corps, au niveau des mécanorécepteurs, donc ils sont capables de sentir les transformations de l'eau autour de leur corps. Et j'ai même vu qu'ils étaient capables de détecter la présence de poissons jusqu'à 30 mètres. Donc ils sont vraiment extrêmement sensibles par ce mécanisme-là de changement de pression de l'eau au niveau de leur corps. Ils ont des récepteurs tactiles au niveau des bras. Et ils ont un organe spécifique aussi pour la gravité.
Est-ce que ceux qui ont des muscles parce qu'ils d'apprentissage, ils ont des bras
Oui, ils sont capables d'apprendre. Celui-là, c'est encore un exemple de tout petit personnes qui finalement est vraiment, enfin, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc ça fait, les tardigradés, c'est une espèce qui fait moins de 2 mm, mais qui a un système nerveux, donc de type métamérisé, donc des grands sillons tout au long du corps, et un organe cérébral principal. Des organes internes assez développés. Ils ont un système donc au niveau du ganglion cérébral en plusieurs lobes et il est relié directement à une tache oculaire qui permet là, de voir. En plus, cet animal-là, il a des propriétés intéressantes. Il est capable de vivre à des températures inférieures à 250, moins de 250 degrés. Oui, justement, c'est bizarre qu'une personne se pose des questions. Pourquoi il est capable de ça? Ça sert à rien sur ma tête. Mais en tout cas, il est capable de vivre à des fortes pressions, à supporter le dérayonnement extrêmement important, et puis à reprendre sa vie
après.
En fait, il se met dans une espèce de spoliation, en fait. Quand il reste en vie, mais il fait une étape dormance.
Est-ce qu'il se souvient qu'il est lui-même après cette réveillée?
Oui, moi je vais demander. Il était très bien. Ouais, 2 mm. Mais il y a quelque chose.
Il y a un petit charme.
Les arthropodes, donc apparaît que comme pour les mollusques, je les ai séparés en différentes sections. Donc d'abord les crustacés, donc crabes, donc ils ont un centre nerveux, donc pareil en métallique, et 2 centres nerveux métallisés dans le corps.
Alors, qu'est-ce que
tu appelles
métamélisé?
Alors, métamélisé, c'est comme ça, c'est des gants du monde qui se répètent. Donc, ils ont sur tout le corps des cellules qui ont une forme type forme de poil qui est capable de détecter les différences chimiques, donc ils sont portés par des chimio-récepteurs. Par contre, ce qui a été observé, c'est que la partie nerveuse ne passe pas la cuticule en fait, de l'animal, donc ne va pas jusqu'au centre principal, et en fait est directement relié à l'organe qui va être bougé en fonction de la détection. Donc c'est vraiment très localisé, il n'y a pas un centre qui
Il peut interprétement se dire ce qu'il sent avec sa peau, sur sa
ouais.
Il ne va pas en sens de...
Non.
Donc quand il est bouleversé,
peut espérer qu'il soit plus que toi.
Ou que chaque partie.
Ou que oui, que chaque partie. Ou que chaque partie, parce que c'est.
Mais il y a quand même
ça,
il y a quand même quelque chose de central. Enfin, il y a quand même un centre nerveux.
Il y a quand même un centre nerveux.
C'est qu'il y a un ganglion qui est plus grand que les autres. Ou...
Oui, parce que il y a
plusieurs ganglions. Ouais,
parce que là, je parlais de la partie donc mécanique et puis de mais il y a un organe de Louis, il y a des yeux. Donc et ça, ça s'est relié au centre, à la partie centrale. Là, de, et ils ont aussi la capacité au niveau là, des antennes de percevoir les odeurs qui eux aussi vont être transférées aux ganglions céphaliques. Et donc c'est ça là. En fait, il y a comme deux systèmes différents. Donc les arachnides, donc c'est scorpion, araignée, acarien. C'est les animaux qui m'ont le plus étonné en regardant toutes ces choses. Et ils ont aussi un système central et deux centres complexes qui sont situés l'un au-dessus de l'œsophage. Qui est le cerveau et qui masque les sous de l'œsophagien. Ils ont des yeux, ils sont capables de voir la lumière, ils en ont 6 à 8 selon les différents groupes. On pense qu'ils ne sont pas capables de détecter l'odorat aiguë, et pourtant il y en a certaines araignées qui font des bruits, donc il y a des doutes de savoir est-ce que ce n'est pas un organisme complètement diffus en fait, qu'on n'a pas encore détecté. On n'a trouvé aucun sens de détection de lui. Pour le sens du toucher, il est très développé, donc il y a des coins tout au long là, de la carapace là, de l'animal. Et qui sont clairement des organes tactiles. En plus, ils ont la capacité d'apprendre, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la vie de l'araignée, elle va complexifier sa manière avant de faire une toile. Et puis elle va s'adapter aux conditions pour que sa toile corresponde à des choses particulières. Et elles sont capables de changer leur comportement selon, par exemple, si l'animal, le petit insecte qui a été pris dans sa toile est mort, elle ne va pas se comporter de la même façon que s'il est encore vivant. Donc, elle adapte son comportement aux situations. Donc, les insectes, donc c'est 1 million d'espèces différentes. Donc, c'est le plus gros groupe là, des invertébrés. Ils possèdent un cerveau qui est logé dans la tête. Il a une chaîne ventrale, donc il a utilisé aussi. Et c'est par cette chaîne-là qu'elle contrôle des pattes. Ils ont un sens de la vue qui est extrêmement développé. On pense qu'ils sont capables de voir des objets. Par les antennes, ils sont capables de non seulement de toucher, mais peut-être certainement d'entendre. Parce qu'ils sentent les vibrations et qu'ils sont capables d'avoir une.
C'est de la
chimie. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et aussi, il y a une sorte d'odorat qui a été développée par ce. Donc, aussi, il y a tout un réseau là, d'appareils nerveux au niveau de la bouche qui pourrait se rapporter à de l'olfaction ou de le caractère du sexe, enfin, le développement du sexe. On sait que les insectes produisent des bruits, donc. Parce que j'ai eu une discussion à savoir est-ce que où est passé Louis, surtout là où c'était dans l'antenne. stéréotypés au même stimuli. Il y a très peu d'animaux qui ont, où on a observé la possibilité d'apprentissage. Ceux pour qui ça a été observé, c'est surtout pour les animaux qui vivent en communauté, comme les abeilles. Là où il y a, on a observé une sorte d'apprentissage du fait de l'interaction avec les animaux. Mais à part ça, il y a peu. En fait, une action provoque toujours la même réaction. Il y a des études qui ont montré aussi que les insectes pouvaient ne même pas se rendre compte, par exemple, qu'ils étaient en train de se faire manger, alors qu'ils étaient en train de faire une attraction, par exemple, sur le produit ou manger eux-mêmes. Et puis, avec une patte baissée, ils vont toujours s'appuyer avec la même force. Donc
le gosse qui rage n'est pas bébé, c'est un peu pas mal.
Qu'est-ce qui se passe en cas d'insecte qui se fait manger, par exemple,
oui.
Vu la chaîne nerveuse qu'il a dans le corps, il devait se passer quelque chose.
En fait, il a été observé qu'il continuait comme si de rien n'était.
Il y a peut-être un problème aussi en fait de traiter tous les insectes pareil. S'il y a un million d'espèces, il y a des chances qu'ils aient divergé au niveau des notions extrêmement longtemps. Tandis qu'il faut qu'il y ait divergé plus longtemps entre eux qu'avec nous, par exemple. Et qu'il y ait peut-être des insectes qui sont sensibles et d'autres qui ne le sont pas, par exemple.
Oui, c'est une possibilité, effectivement. C'est-à-dire que c'est une observation, c'est difficile aussi là, de
générer. Il y a un truc particulier qui est un peu à ce
moment-là. Oui. Mais c'est vrai que c'est une observation qui a été faite et qui semble se répéter. Le fait qu'avec une patte dotée, il va se comporter de la même façon. Comme s'il ne ressentait même pas la douleur, mais comme dit Yves, ça se peut aussi, ça diverge selon les types d'animaux.
J'avais entendu dire que pour la même espèce, je crois que c'était sur une sauterelle, l'expérience, il y avait des comportements différents, celui dont vous parlez de continuer à faire son activité alors qu'est-ce que j'ai demandé. Mais par ailleurs, quand on la mettait sur une plateforme, ça me dit. Elle va l'appuyer.
Ah, ok.
Alors, c'est pour une sauterelle.
Parce que j'ai lu aussi, donc par rapport des tests en fait qui sont faits sur la présence ou pas là, de composés dans le corps qui indiquerait la souffrance. Donc ils testaient avec des molécules qui ressemblent aux opiacés chez nous, et ils observaient justement en mettant sur une plaque chauffante que si tu injectais donc ce similaire aux opiacés, et bien qu'il allait rester plus longtemps que si. Donc ça laisserait à penser qu'il est quand même capable de sentir la chaleur, puisqu'il va se comporter différemment selon.
Je pense que dans ce genre d'expérience, l'interprétation est plutôt évidente et qu'il faut se méfier des interprétations qui anthropomorphiques, justement. C'est-à-dire que nous, quand on a une blessure, si un animal est en train de nous bouffer, par exemple, on a des possibilités encore de se sauver, etc. Donc c'est logique qu'on ressente une douleur et qu'on ait un comportement donc correspondant à cette douleur. Si un insecte, une fois qu'il a commencé à être bouffé, n'a de toute façon aucune chance de se sauver, je ne vois pas pourquoi l'évolution aurait développé de la douleur dans ce cas particulier. Ça n'empêche pas que dans d'autres cas particuliers, il puisse y avoir des douleurs qui correspondent plus à une logique d'évolution, une logique de voilà. Donc, c'est un peu comme dans un autre cas de figure, que parfois on dit que oui, une vache, que beaucoup d'animaux, du style beaucoup de mammifères, ne se plaignent pas quand ils sont malades. Le fait est qu'un humain qui est animal social a aussi des raisons de se plaindre, alors que la plupart des mammifères ont beaucoup de raisons de cacher leur douleur. Et ça ne veut pas dire que cette douleur. C'est juste un exemple pour dire que souvent l'interprétation demande beaucoup plus de connaissances que simplement au pif comme ça, parce qu'on ne voit pas comment s'y attendait.
Donc là j'ai terminé avec toute la liste, juste là pour ouvrir la discussion. Donc vous parlez, certainement pas d'une manière exhaustive, mais au moins d'ici un petit peu les interactions que l'on a avec les invertébrés, parce que c'est vrai qu'on pense souvent à la consommation de type miel, coquillage crustacé ou ce genre de consommation. Il y a, d'autres interactions avec les animaux. En agriculture, par exemple, on va utiliser des pesticides pour faire que les légumes poussent correctement. On va labourer le sol, qui peut donc entraîner des blessures aux animaux qui vivent dans le sol. On va protéger les animaux, on va utiliser la rifuge, animaux humains, anti-tout, anti-tout. Il y a toute une série de tests toxicologiques que l'on va faire, par exemple sur la contamination des sols avec du lombrique ou sur la contamination d'eau avec des acides qui sont effectivement traités. La recherche qui est faite, par exemple l'action de l'État de Mars, c'est pour le type de recherche sur les linéaires. Quand on fait du nettoyage, on va faire des détraitements aussi, le transport, les loisirs, et puis certainement donc voilà, c'est pour ouvrir la discussion et puis voilà, de savoir un petit peu qu'est-ce que. Peut-on considérer que les invertébrés sont sentients? Peut-on les considérer déjà dans un groupe, tous ensemble? On l'a dit non. Il y a des différences vraiment entre chacun des groupes, peut-être même à l'intérieur des groupes. Comment on peut évaluer ça? Est-ce que dans notre comportement, il y a quelque chose à changer aussi pour prendre en compte